C'est donc Mathieu Laurent pour le journal. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. 9 soldats russes tués dans le nord-est de la Syrie dans une attaque de l'organisation État islamique près de Deir ez-Zor. Correspondance de Moscou de Jean-Didier Revoin. Nous serons dans un instant en ligne de Berlin où des collectifs antifascistes ont donné la répartie à des membres de l'extrême droite de l'AFD. Également au sommaire, les pressions exercées sur Theresa May après le oui irlandais à la libéralisation de l'avortement, au Premier ministre cette fois d'intervenir en Irlande du Nord. Et puis en France, les débats houleux au Parlement sur les principaux points de la loi sur l'alimentation. Mercredi dernier, des effectifs de l'organisation État islamique ont mené en pleine nuit une attaque dans une zone désertique de la province de Deir ez-Zor et provoqué de lourdes pertes dans les rangs loyalistes appuyés là par des soldats russes. 9 d'entre eux ont péri, tout comme 26 membres des forces du régime syrien. Ni commentaires, ni démenti russe. Le Kremlin a jusque-là ni affirmé compter des troupes sur le sol syrien. Jean-Didier Revoin, comme convenu, nous appelle de Moscou.
Une offensive nocturne de l'État islamique dans le nord de la Syrie contre une batterie d'artillerie des forces du régime a fait de nombreuses victimes. 26 soldats syriens auraient péri dans cette attaque, ainsi que 9 ressortissants russes. Selon le ministère russe de la Défense, 2 conseillers militaires commandant l'artillerie syrienne sont morts sur place alors que 3 autres soldats ont été évacués rapidement vers une structure hospitalière syrienne où 2 d'entre eux ont succombé à leurs blessures. Les autorités russes ont fait savoir que les combats avaient éclaté lorsque plusieurs groupes terroristes mobiles ont attaqué de nuit l'artillerie syrienne, ajoutant que 43 terroristes avaient été abattus et 6 véhicules tout-terrain équipés de mitrailleuses lourdes avaient été détruits. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces combats auraient eu lieu mercredi dernier dans la province de Deir ez-Zor, une information que la défense russe n'a pas confirmée. La province de Deir ez-Zor, à l'est de la Syrie, est la dernière du pays où l'État islamique contrôle encore des territoires. Des positions qui lui sont contestées par 2 offensives distinctes. D'un côté, celle de la coalition internationale et des forces démocratique syrienne, une coalition dominée par des combattants kurdes, et de l'autre, celle des troupes gouvernementales syriennes et de leurs alliés. Depuis le début de l'intervention russe dans le conflit syrien en septembre 2015, 92 militaires russes ont officiellement perdu la vie dans ces opérations, sachant qu'à l'heure actuelle, près de 3000 soldats russes sont toujours déployés en Syrie, dont la majorité se trouve aux abords de la base aérienne de Memim.
3 Palestiniens tués ce dimanche dans la bande de Gaza, 3 hommes qui occupaient un poste d'observation du djihad islamique, poste atteint et détruit par l'obus d'un char israélien. La bande de Gaza, d'où partira mardi matin un bateau pour, je cite, « briser le blocus israélien imposé à cette enclave depuis 10 ans ». Depuis cette annonce effectuée par le comité d'un mouvement baptisé « la Grande Marche du Retour », Israël s'emploie à construire une digue fortifiée surmontée de barbelés au large de la plage de Zikim. L'arrestation en Égypte d'une figure de l'opposition, Azim Abdelazim, a été appréhendée par la police hier soir. Il fut un temps proche du régime d'Abdel Fattah al-Sissi avant de le combattre. Vague de répression accrue ces dernières semaines contre des personnalités de la société civile. La page n'est pas tout à fait tournée et les démons du passé pourraient ressurgir. Là est le véritable enjeu de la présidentielle colombienne. La droite dure opposée aux accords de paix signés il y a 1 an et demi se mesure à une gauche marxiste qui échange avec les ex-guérilleros. L'avenir des négociations est donc en ballottage et le risque de détérioration du dialogue entamé avec les ex-FARC est significatif, selon Daniel Pecco, expert en sociologie politique de l'Amérique latine.
Tout le problème, c'est ou bien Iván Duque, le candidat de droite, passe dès le premier tour, ça semble quand même peu probable, ou bien il y a un second tour et il y a toute chance que ça soit Petro contre Iván Duque. Et à ce moment-là, nous assisterons effectivement à une extrême polarisation et alors il y a des risques pour la poursuite du processus de négociation. Je pense que la droite, le candidat Iván Duque, ne va pas dénoncer l'ensemble des accords de La Havane. Il va simplement demander des modifications, en particulier concernant le système de justice transitionnelle et concernant éventuellement les programmes de réforme agraire. Et donc, ce sont apparemment des petites modifications. Le risque est simplement, à un moment où ceux qui faisaient partie des FARC et l'ensemble de l'opinion plus ou moins orientée à gauche ont beaucoup de doutes sur le processus de paix. Et le danger est qu'un certain nombre de militants des FARC, des ex-guerrieros, renoncent, ne fassent plus confiance au projet du gouvernement. Et l'on voit comment il y a déjà plusieurs régions. On estime qu'il y a d'ores et déjà environ 2500 dissidents des FARC qui ont gardé les armes.
Des propos recueillis par Nabila Hamel. L'on doit l'information suivante au Washington Post. Des émissaires américains se sont rendus en Corée du Nord pour y préparer le sommet qui devrait réunir prochainement Kim Jong-un et Donald Trump. Il est 18h05 et vous écoutez Journal de France Culture. En Italie, l'éventualité de la nomination au poste de ministre des Finances d'une personnalité eurosceptique a à ce point irrité le président que le Premier ministre a dû revoir sa copie. On en saura un peu plus dans une heure. Giuseppe Conte est en effet attendu au palais du Quirinal à Rome, résidence de Sergio Mattarella. Les recrues d'Alternative für Deutschland sont-elles europhobes et xénophobes? L'AFD qui a organisé aujourd'hui un rassemblement à Berlin. 10 000 personnes attendues dans un premier temps. Elles furent 4 fois moins nombreuses. Il faut dire que l'AFD a eu droit à un volumineux comité d'accueil sonore. Bonsoir Nathalie Versieux.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Berlin. Dans quelle atmosphère se sont déroulés ces événements cet après-midi?
Les débordements redoutés n'ont pas eu lieu. Alors, des milliers de jeunes ont dansé tout l'après-midi dans les avenues qui traversent le principal parc de la ville, le Tiergarten, au son de la musique techno. Ils avaient été mobilisés par 7 clubs de la ville pour protester contre l'AFD, le racisme et la volonté du parti d'extrême droite de retourner aux valeurs chrétiennes. Au total, 25 000 contre-manifestants donc ont défilé dans l'après-midi face à 5 000 militants d'extrême droite hostiles eux à la politique d'asile d'Angela Merkel et à, je cite, l'islamisation de la société allemande. Le quartier gouvernemental était coupé en deux cet après-midi. D'un côté, les drapeaux noirs, rouges et or de l'AFD, ses slogans anti-Merkel. De l'autre, des banderoles multicolores et dorées des clubbeurs aux tenues chamarrées pour certains, tout droit sortis des boîtes techno de la ville. Récemment, l'AFD s'en était pris au Berghain, le plus célèbre club techno de Berlin, appelant à limiter les horaires d'ouverture pour lutter, je cite, contre la consommation de drogue et à augmenter l'éclairage pour lutter cette fois contre les orgies contraires aux bonnes mœurs.
Merci à vous, Nathalie Versieux, en direct de Berlin. Des services espagnols de sauvetage en mer annoncent avoir secouru ce week-end 532 réfugiés qui tentaient de traverser la Méditerranée à partir de l'Afrique du Nord. 3 des embarcations approchées ont coulé juste après l'évacuation de leurs passagers. Au lendemain du oui à la libéralisation de l'avortement en Irlande, un simple coup d'œil à la carte du Royaume-Uni suffit à comprendre ce qui suit. Un seul périmètre condamne encore l'interruption volontaire de grossesse. Il s'agit de l'Irlande du Nord. Les adversaires et détracteurs n'ont pas perdu de temps et pressé Theresa May d'intervenir sans tarder. Mais le Premier ministre, Marina Daras, n'insultera pas son avenir politique.
Penny Mordaunt, la ministre des Femmes et de l'Égalité, ainsi que ses 4 prédécesseurs, poussent la première ministre à autoriser un vote libre au Parlement pour réformer les lois draconiennes sur l'avortement en Irlande du Nord. Dans cette province très conservatrice du Royaume-Uni, l'influence des religions catholiques et protestantes est très forte. L'avortement n'est autorisé que lorsque la vie de la mère est en danger. Avorter ou pratiquer un avortement illégalement est puni par une peine d'emprisonnement à perpétuité. Une loi extrêmement stricte qui fait tache avec la législation en vigueur dans les autres pays du Royaume-Uni. L'Assemblée nord-irlandaise a pourtant autorité pour adopter une loi sur l'IVG en concordance avec le reste du Royaume-Uni, mais a voté contre en février 2016 et n'a plus siégé depuis la chute du gouvernement en janvier 2017. Mais Theresa May a les mains liées, Downing Street craint de déstabiliser le gouvernement en s'opposant au parti unioniste démocrate, un parti socialement conservateur avec qui Theresa May avait passé un accord politique lors des dernières élections afin de préserver sa majorité à la Chambre des communes. Si elle veut préserver cet accord, mieux vaut ne pas marcher sur les pieds du DUP. De plus, les Nord-Irlandais voient toujours d'un mauvais œil toute tentative d'ingérence de Westminster dans la province d'Ulster, qui rappelle les années douloureuses de conflits entre les deux pays.
Correspondance de Londres de Marina Daras. Une 20aine de personnes, dont des civils, ont péri dans le nord-est du Mali lors d'une attaque attribuée par les autorités à des effectifs djihadistes. Un poste du mouvement pour le salut de l'Azawad, l'ex-rébellion à dominante Touareg, a été pris pour cible par des hommes qui parlaient peul, arabe et tamashek, la langue Touareg, selon des témoins. Les députés français continuent de débattre autour du projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation. Aujourd'hui, ils ont rejeté l'interdiction des pubs alimentaires peu saines visant les enfants. Hier, au terme d'un débat passionné sur les cantines, les députés ont voté pour plus de bio dans la restauration collective, au moins 50% d'ici à 2022. En revanche, les débats ont été très vifs concernant la proposition d'introduire une part de menus végétariens dans les cantines et la proposition n'a pas été retenue. Selon le député En Marche, Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, la France n'est pas encore prête pour ce genre de mesures.
C'est un sujet qui est malheureusement encore aujourd'hui trop polémique, alors que c'est un sujet qui est assez simple finalement, diversifier les protéines, favoriser aussi les protéines végétales à côté des protéines animales. Il ne s'agit pas d'imposer à tout le monde de manger végétarien ou de plus manger de viande, mais de laisser à chacun le choix. Donc il y a eu des débats souvent passionnés. Moi, j'ai trouvé assez intéressant, parfois caricaturaux, mais on a obtenu une avancée. C'est-à-dire qu'on a adopté dans la loi que chaque cantine scolaire va mettre en place un plan de diversification des protéines. Et donc, est-ce que la solution qui sera adoptée dans tel ou tel lycée, ce sera un menu végétarien par semaine ou alors une alternative végétarienne tous les jours, etc. Ça laissera le libre choix à chaque établissement scolaire. Donc, je pense que c'est peut-être pas aussi emblématique pour certains qu'un repas végétarien toutes les semaines ou d'autres façons de le présenter, mais je crois vraiment que c'était le moyen le plus consensuel d'avancer enfin sur cette question. Il ne s'agit pas d'opposer les protéines animales aux protéines végétales, parce que imaginons que vous allez mettre des alternatives ou des repas végétariens, mais ces jours-là, en coût de denrées, ça va coûter moins cher et ça va vous permettre pour les autres repas d'acheter de la viande de meilleure qualité. Parce que oui, la viande de meilleure qualité, ça vaut plus cher, ça coûte plus cher que de la viande importée de l'autre bout du monde et produite dans des conditions déplorables.
Le député Mathieu Orphelin, au micro de Benjamin Delisle. Le député a d'ailleurs déposé un amendement pour introduire le glyphosate, dans le projet de loi. Un débat très attendu qui aura lieu cette fois demain. C'est le plus grand projet privé en France depuis Disneyland Paris en 1992, Europa City à Gonesse. Situé entre les aéroports d'Orly et du Bourget, ce projet de plus de 3 milliards d'euros porté par le groupe Auchan pourrait voir le jour en 2027. Europa City, c'est 250 000 m² de commerce, de loisirs et de culture, sauf que les opposants à ce projet contestent toujours l'artificialisation des terres agricoles. Ils se sont retrouvés pour la deuxième année consécutive pour la fête des terres de Gonesse. C'est un reportage de Valentin Dunette.
Ce projet Europa City, c'est un peu le Notre-Dame des Landes franciliens. Ce lieu est en train de devenir une ZAD. Bernard Loup, le président du collectif du Triangle de Gonesse, confirme.
C'est une ZAD ici. C'est une zone à défendre et on la défendra avec toute l'imagination et la même imagination qu'il y a eu à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ce sera l'occupation? Ça dépendra aussi de la partie adverse, comment ils se comporteront. Pour l'instant, comme vous voyez, tout se passe relativement bien en famille, mais s'ils nous cherchent, ils nous trouveront.
Ce projet suscite en effet beaucoup de tensions entre deux camps farouchement opposés. Le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi, lui, est persuadé du bien fondé d'Europa City.
Soit on est sur une position très intégriste, où aujourd'hui, il ne faut plus urbaniser un seul pouce de terre, soit raisonnablement, parce qu'il y a un intérêt général sur un territoire de banlieue qui souffre du manque d'emploi, eh bien, dans le cadre du Grand Paris de demain que nous imaginons, ce soit un endroit attractif.
En d'autres termes, pour ses défenseurs, Europa City, c'est le Stade de France du Val d'Oise, le projet qui va attirer les autres avec un parc d'attractions, la plus grande piscine d'Europe. Et selon les dernières projections, il pourrait rapporter plus de 10 000 emplois, un chiffre évidemment contesté par les opposants.
Parmi les nombreux hommages rendus à Pierre Bellemare, décédé à l'âge de 88 ans, celui d'Emmanuel Macron, la France perd aujourd'hui une figure populaire au sens le plus noble du terme. Pendant 60 ans, Pierre Bellemare, ajoute le chef de l'État, aura marqué de son empreinte unique l'histoire de la radio et de la télévision française et accompagné plusieurs générations de Français avec ce timbre, ce débit, ce visage devenu familier et que les imitateurs croquaient avec affection. Fin de citation. Quelques mots de la météo de demain, temps encore très agité avec de denses pluies orageuses. Température minimale comprise demain matin entre 14 et 20 degrés. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetou.